Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que trouvons-nous dans ces quatre petits versets dont la richesse ne laisse pas d'étonner? Deux choses au moins, je dis bien au moins, un rappel et un appel. Le rappel d'abord. Votre vie, écrit Paul aux chrétiens de Colosse, verset 3 de ce chapitre, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie, pour autant que nous sommes des adeptes de Christ, ses disciples, notre vie est cachée. Autrement dit, ce que nous sommes réellement n'apparaît pas. En tout cas, pas immédiatement. D'où cette énigme que nous sommes pour le monde. En tout point semblable aux autres, et pourtant différent. Fait de chair et de sang, comme les autres, et pourtant imprévisible. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Notre vie est un mystère pour les hommes. Et s'il en est ainsi, c'est que nos sources en Dieu sont en dehors de leur champ d'expérience et nos visées célestes au-delà de leur horizon. Mystère de la vie en Christ, écrivait un certain Guy Appéré, qui n'est autre que mon père, et à qui j'ai plaisir à dédier cette méditation ce matin, lui qui l'a alimenté en son temps. Mystère de la vie en Christ, de la vie cachée qui se renouvelle aux sources éternelles de la communion avec Christ, telle l'oasis inattendue, insolite au milieu du désert desséché. Inexplicable pour qui ne regarde qu'à la surface des choses, mais qu'un courant d'eau invisible parfois alimente au milieu de l'aridité complète. Mais voici que j'ai soudain besoin d'être rassuré. Notre vie est bien une énigme pour le monde, n'est-ce pas? Nos paroles, nos gestes sont de ceux qui déconcertent. Je ne me trompe pas. Ouf, vous m'avez rassuré. Le moment est venu de nous engager plus avant sur la piste de réflexion que nous a ouverte notre texte. À quoi notre vie doit-elle d'être fondamentalement autre? Réponse au fait qu'elle est tout entière en Christ. Explication. Au moment précis où nous avons mis notre foi en lui, nous sommes devenus un avec lui. Dieu a comme définitivement lié notre vie à celle de son Fils. D'où la formule « avec Christ » ou « avec lui » que Paul aime à citer pour la caractériser. Verset 1, « Vous êtes ressuscité avec Christ ». Verset 3, « Votre vie est cachée avec Christ ». Verset 4, « Alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire ». Nous avons été rendus parfaitement solidaires avec Christ, au point que notre destin a cessé d'être dissociable du sien. Il est mort, nous sommes morts avec lui. Il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il a été glorifié, nous connaîtrons nous aussi la gloire avec lui. Le secret de notre altérité, donc, si je puis dire, notre union avec Christ. Et plus précisément, pour ce qui est de notre altérité présente, nous ne dirons rien ce matin de l'autre, celle qui ne sera révélée qu'au dernier jour, notre participation à sa mort et à sa résurrection. Car, dit en substance l'apôtre Paul, étant en Christ, avec lui vous êtes morts, avec lui vous êtes ressuscités. Vous êtes morts d'abord, verset 3, en effet, vous avez connu la mort. Non pas vous devez mourir, mais bien vous êtes déjà morts. Entendez par là, mort aux sollicitations du monde et du péché. Paul, on le voit, est sans détour. Nous qui, par la foi, avons adhéré à Christ, nous avons rompu avec le monde et le péché, au point que pour eux, nous sommes comme morts. L'œuvre de la conversion, écrite un certain Norbert Hugedet, a été de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Dès lors, poursuit-il en substance, nous sommes devenus morts au péché. La tentation n'a plus de prise sur nous. Un cadavre peut-il être tenté ? Le monde peut bien nous piquer, nous blesser, nous vexer. Nous ne bronchons pas plus que des morts. C'est que nous ne sommes plus accessibles ni à ses appels, ni à ses influences. Ces vaines théories ne nous intéressent pas. Non plus d'ailleurs que ses prétendus plaisirs. Fin de citation. Étonnant portrait dont on voudrait tant qu'il nous corresponde. Mais nous rappelle-t-il seulement vaguement ? Le monde a-t-il réellement perdu déjà, pour nous, son attrait et le péché, sa saveur ? Nous qui sommes morts pour le péché, écrivait Paul aux chrétiens de Rome, je cite le chapitre 6 de sa lettre aux Romains, « Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Sachez bien ceci, l'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec Christ, sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Fin de citation. Morts au péché, voilà donc ce que nous sommes. C'est pourquoi, déjà, nous sommes autres. Mais il y a plus. Avec Christ toujours, nous sommes ressuscités. Verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, de même qu'en lui nous sommes morts, de même en lui nous avons été rendus à la vie. » Explication. Lorsque par la foi, nous avons mis notre confiance dans le Fils pour notre salut, Dieu, dans sa grâce, nous a fait participants de la vie même de Christ. La vie même de Christ. Sa vie est devenue notre vie. Nous avons compris alors que nous vivrions à jamais. Dans le même temps, nous avons su que notre vie ne pourrait plus être qu'une vie résolument tournée vers Dieu et librement consacrée à son service. Maintenant que Christ est vivant, expliquait l'apôtre Paul aux Romains toujours, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Sachant que ce sacrifice vivant sain et agréable à Dieu, sera de votre part un culte raisonnable, le culte que Dieu attend de vous. Ainsi, notre condition présente est double. Morts avec lui, pour le monde, et vivants avec lui encore, pour Dieu. Et notre voie toute tracée, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marcherons nous aussi en nouveauté de vie. En d'autres termes, nous veillerons toujours à ce que notre vie puise en Dieu son inspiration et son sens. Et là, je me dis comme ce serait beau si notre vie était ainsi tout entière, orientée déjà vers Dieu. Nul doute qu'elle constituerait alors une vraie énigme pour le monde, une vraie énigme. Mais sommes-nous tous vivants déjà pour lui ? N'ayant qu'une soif, le connaître, qu'une ambition, le servir, qu'un bonheur, lui être agréable. C'est pourtant la condition pour qu'apparaisse notre différence et que les hommes et les femmes qui nous entourent s'étonnent, incapables qu'ils sont d'en saisir l'insoupçonnable raison. Dieu lui-même, qui en réponse à notre foi, a donné à notre vie une ouverture par laquelle pénètre sa vie et par laquelle aussi nos aspirations peuvent s'élever et trouver leur suprême objet, en même temps que leur parfaite satisfaction. Voilà pour le rappel. Notre vie est un mystère pour qui ne connaît pas Dieu et ignore tout du lien extraordinairement intime qui nous lie désormais à son Fils. L'appel maintenant, l'appel. Verset 1 d'abord, recherchez les choses d'en haut. Verset 2 ensuite, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le lien avec ce qui précède est évident. Puisque nous sommes en Christ, et qu'en lui nous sommes à la fois morts pour le monde et vivants pour Dieu, il convient aujourd'hui que tout notre intérêt se concentre sur ce qui est en haut. L'appel est donc à l'harmonisation de nos pensées avec notre condition. L'harmonisation de nos pensées avec notre condition. Toute préoccupation ne sied pas également à qui est en Christ. Celui dont le destin se confond désormais avec celui de Christ, celui-là se doit de choisir entre les divers objets qui s'offrent à sa contemplation et ne retenir finalement que ceux élus par Christ lui-même. Un tri s'impose donc. Un tri s'impose à nous dès lors que notre vie a été liée à la sienne. Il est des choses dont il convient que nous nous désintéressions une bonne fois. Et d'autres dont nous avons tout avantage à nous préoccuper sérieusement. Pour son plaisir à lui et pour notre bonheur, les deux étant toujours intimement liés. Un mot pour commencer des premières, ces réalités dont il faut nous détourner. Verset 2, Paul le dit, celles qui sont sur la terre. Là encore, la leçon me paraît claire. Dès lors que nous sommes en Christ, nous ne pouvons tout simplement plus reconnaître aux choses de la terre la valeur que les hommes leur accordent et que nous-mêmes leur accordions par le passé. « Là où est ton trésor ?» avertissait Jésus. « Là aussi, mon ami, sera ton cœur. » Eh bien, notre trésor, si je puis dire, explique l'apôtre, ce à quoi nous sommes attachés, ce qui mobilise nos pensées, motive nos choix, inspire nos gestes, bref, ce qui nous fait vivre, ne peut plus appartenir à la terre. Cette vie-ci ne peut plus être notre seul horizon. Celui qui aime sa vie, disait encore Jésus, la perd. Et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Les êtres chers qui nous entourent ne peuvent plus être tout ce qui compte pour nous. Si quelqu'un vient à moi, disait aussi Jésus, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut pas être mon disciple. Dur. Les biens de ce monde, enfin, leur acquisition, leur accumulation et leur valorisation ne peuvent plus être notre centre d'intérêt. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, disait encore Jésus, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent et où les spéculateurs sévissent, ayant de renchérir pour conclure, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Puisque tout ce qui est dans le monde, et j'en de citer, par exemple, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens, ne provient pas du Père, mais provient du monde. Or, le monde passe, lui et sa convoitise. Mais celui, conclut l'apôtre, qui fait la volonté de Dieu, lui demeure à jamais. Et je dis à bon entendeur, salut. Voilà, donc pour ces choses qui ne peuvent plus capter toute notre attention et dont nous devons apprendre à vivre détachés ou désattachés, comme vous voudrez. Un mot maintenant des autres, ces réalités vers lesquelles il nous faut nous tourner. Verset 1 déjà, verset 2 ensuite, les choses d'en haut. Et Paul de préciser, verset 1, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Que faut-il comprendre ici? Depuis que nous avons été comme hantés en Christ, rattachés, unis, identifiés à lui, il va de soi que nous nous préoccupions d'abord des réalités célestes, ces réalités invisibles qu'il nous a révélé, et au centre desquels figure à jamais sa propre personne, juste, dit Paul, à la droite de Dieu. Autrement dit, à la place d'honneur, celle que l'on réservait au souverain. Nous donc, qui, pour être morts et ressuscités avec lui, vivons pour Dieu, nous voici gentiment mais fermement rappelés à notre vocation première. Levez les yeux vers Christ, mais Christ en gloire, qui, sa mission accomplie, mérite de plein droit, sous le regard de Dieu, l'hommage de ses sujets. Divine contemplation, écrit encore Norbert Rugedet, de l'homme racheté, dont la vie, réellement, n'est plus ici-bas. Ainsi, notre pensée est éclairée. Ces choses d'en haut qu'il convient que nous recherchions mieux, auxquelles il faut que nous nous attachions, ces choses, disais-je, portent un nom, Christ. C'est lui que Paul nous invite à rechercher toujours, lui dont il voudrait qu'il soit l'objet premier de notre attachement. L'ami sans lequel nous ne pouvons vivre, et dont la présence nous comble littéralement de bonheur. Mais si nous attacher aux réalités d'en haut, c'est d'abord rechercher Christ et nous engager à aimer ardemment sa personne, c'est aussi nous éprendre de tout ce qui compte pour lui. C'est vouloir le rejoindre pleinement, parce que notre désir désormais est de porter sur tout le même regard que lui, penser comme lui. Se soucier, mais seulement de ce qui le préoccupe. S'intéresser, mais à ce qui l'intéresse, lui. Aimer, mais ce que lui aime. Dieu, son royaume, sa justice, ses amis. C'est cette recherche des choses spirituelles, écrit mon père, et cette préoccupation des intérêts de Dieu qui attestent la réalité de la conversion. Celui qui prétend être chrétien tout en ayant les mêmes préoccupations que le reste des hommes, en vivant au ras de la terre, sans être saisi par un idéal supérieur, sans penser toute chose en fonction de l'éternité et de l'invisible, celui-là s'abuse lui-même. Comment l'exilé ne soupirerait-il pas après sa vraie patrie ? Si nous sommes nés d'en haut, nous ne pourrons que soupirer après les choses d'en haut. Maintenant, est-ce à dire qu'il nous faut dédaigner la terre, regarder avec indifférence, sinon mépris, le monde dans lequel nous vivons toujours ? La question vaut d'être posée. Le ciel serait-il un lieu d'évasion ? Certains chrétiens nous le feraient croire, dont l'attention est à ce point captée par les choses du ciel qu'ils ont perdu tout contact avec les réalités terrestres. Ils n'ont tout simplement plus les pieds sur la terre, comme on dit. L'espérance chrétienne serait-elle, après tout, cet opium que dénonçait jadis un homme à la barbe fournie ? Et les chrétiens, les grands absents de la scène de ce monde ? Permettez que je cite ici l'utile réponse que propose, j'ai dit que j'allais le citer, je le recite, mon père. Ouvrons les guillemets. Ce n'est certainement pas la pensée de Paul. La vie du chrétien n'est pas une double vie. Elle n'est pas un perpétuel tiraillement entre des intérêts, des préoccupations, des aspirations contradictoires, célestes et terrestres. Soulignons-le à nouveau. La vie chrétienne n'a rien d'un conflit dualiste. La vie chrétienne, c'est la vie dans sa parfaite unité. Ce n'est pas le ciel contre la terre, mais le ciel sur la terre. Les choses d'en haut dans les choses de la terre. Les préoccupations d'en haut dans les poursuites d'ici-bas. Dieu dans notre existence humaine, dans nos problèmes humains. La vie chrétienne, c'est vivre pleinement chaque moment de l'existence terrestre en fonction des réalités et des valeurs célestes. C'est vivre pleinement sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, en les prolongeant, en discernant leurs aboutissements au-delà du terrestre, au-delà du visible, du sensible, dans l'invisible, dans l'éternel. La vie spirituelle n'est pas une vie sur le plan de l'esprit, par opposition au corps, mais une vie totale, humaine, pratique, inspiré, dirigé, contrôlé par l'esprit. Fin de citation. C'est cette nouvelle dimension de la vie qui donne à chacun de ces moments ses justes proportions et sa vraie valeur. Cela dit, les paroles de l'admirable cantique restent à propos. Les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Les choses de la terre pâliront peu à peu. Il nous faut conclure. Nous qui avons cru, nous avons été unis à Christ. Nous avons été faits un avec lui. D'où notre différence. Du moins, je l'espère. Notre différence, source de perplexité pour les hommes, étant en lui, avec lui, nous sommes morts pour le péché et pour le monde, et ressuscité pour une vie nouvelle tout entière, orientée vers Dieu. Mais notre vocation, aussi, nous désattacher des choses de la terre pour nous attacher à celles d'en haut. Que nous reste-t-il à faire pour que notre différence apparaisse toujours plus clairement aux hommes et aux femmes qui nous entourent, à la seule gloire de celui qui en est l'unique explication, soyons à la hauteur de l'appel qui nous a été adressé. Attachons-nous vraiment aux réalités d'en haut. Et plutôt que de garder, comme les autres, les yeux rivés sur les choses de la terre, incapables de nous élever jamais plus haut que terre, recherchons celle d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puisque ces choses d'en haut, le ciel tout entier, se résument en ce seul nom, Christ, c'est chez nous ça en plus, hein. Personne n'est passé par le plancher. Et puisque ces choses d'en haut, donc, le ciel tout entier, se résument en ce seul nom, Christ, faisons de lui l'objet toujours premier de nos pensées. Et peut-être pouvons-nous adresser aussi cet appel à tous ceux parmi nous qui, pour n'avoir pas mis déjà leur foi en Christ, et il y en a peut-être, lui sont encore étrangers. Mes amis, attachez-vous, vous aussi, aux réalités d'en haut. Vous êtes contentés jusqu'ici des réalités de la terre. Celles-là, croyez-nous, ne vous tireront jamais que vers le bas. Et si, levant enfin les yeux, vous recherchiez aujourd'hui, avec nous, les choses qui sont en haut, votre regard ne tarderait pas à rencontrer celui qui habite le ciel et en qui le ciel tout entier se résume, Christ, qui pourrait commencer alors de vous hisser, vous aussi, c'est un terme que lui-même a choisi, de vous hisser, vous aussi, au-dessus de cette vie, pour vous donner d'embrasser enfin, avec nous toujours, la vie éternelle. Amen.